Europe 1. Ondelat raconte. Christophe Ondelat.
Le 8 août 2003, au creux de la Tine, dans la Drôme. 40 degrés à l'ombre, c'est l'été 2003. Rappelez-vous, l'été de la canicule. Et au creux de la Tine, Martine se fait du mauvais sang. Elle n'a plus de nouvelles de son homme, Jean-François. Jean-François André. La dernière fois que ses amis l'ont vu, c'était il y a 2 jours, dans un bar de bikers au bord de la Nationale 7, le bien nommé RN7. Il était avec ses potes motards et il arrosait le tournage d'un film auquel il venait de participer. Un film, disons, un peu particulier. Un film de boule, comme on dit. Un film porno, ou plutôt érotique, dans l'ambiance biker. Sacrée expérience que ce film. Il y avait même des acteurs porno venus spécialement de Paris. Alors oui, ça, on peut le dire. La dernière fois qu'on a vu Jean-François, ça picolait sec. C'était la grosse fête avec cette chaleur. Que voulez-vous ? Il faut bien s'hydrater. Ce qu'on sait, c'est qu'il est parti vers 22h sur sa Big Drum Machine, comme il l'a baptisé, sa Harley Davidson. Ce qui, entre nous, n'était pas très raisonnable. En même temps, il n'allait pas loin. 2 kilomètres pour aller jusqu'à chez lui, à Annay, et rejoindre sa femme et sa fille. Il n'est jamais arrivé. On l'a cherché partout, ses amis ont refait le trajet, rien. Et maintenant, ça fait 2 jours, et sa femme dit « Ben, crois qu'il faut qu'on aille voir les gendarmes. » Et avant d'y aller, elle fait une dernière fois le tour de la maison. Et à travers les maïs, desséchés par la canicule, elle aperçoit un reflet de miroir. Elle rentre dans le maïs. C'est la Big Drum Machine. Elle est couchée sur le flanc. Et sur la moto, il y a Jean-François, mort. Elle hurle, elle hurle. Le corps est déjà très décomposé à cause de la chaleur. Il est couvert de mouches. Il a une blessure au visage et il y a du sang séché sur son blouson de cuir. Martine appelle les gendarmes et ensuite les pompiers. Et ce sont les pompiers qui arrivent les premiers. Et avec une petite troupe de bikers qu'il faut tenir à distance, car la nouvelle a vite fait le tour. Ce sont les copains de Jean-François. Ce qu'ils veulent savoir, eux, c'est s'il a été percé. Dès qu'ils aperçoivent un pompier, ils lui demandent « Il a été percé ? Il a été percé ?» Jean-François, pour eux, c'est l'api, comme l'oiseau. Dans la bande, tout le monde a un surnom. Et lui, donc, c'était l'api, parce qu'il aimait que ça brille. Il astiquait sa moto comme pas deux. Pas une trace de doigt, pas une tache de boue. L'api, sa moto, c'était comme sa femme. Et maintenant, voilà les gendarmes. Pour eux, ça ne fait pas de doute. Il a été exécuté sur place. L'autopsie confirmera qu'il a reçu une balle dans la joue et une autre mortelle dans le dos, sans doute à bout portant. Il a fini sa course dans le champ. Tiens, voilà les douilles. À quelques mètres du corps, de calibre 9 mm. Le balisticien est formel. Elles ont été percutées par la même arme. C'est donc qu'il n'y avait qu'un seul tireur. Dans les jours qui suivent, l'enquête de proximité identifie un témoin. Il a vu le soir du meurtre, sur le bord de la route, pas très loin, une Golf Volkswagen noire. Il indique l'endroit. on y trouve des mégots de cigarettes. Ah, ça, c'est bien intéressant. En général, sur un mégot, il y a de la salive. Et dans la salive, il y a de l'ADN. On envoie les mégots au labo. Et puis vient le moment où il faut enterrer la pie dans son village natal, à Quintenat, dans l'Ardèche. Ah, il faut que je vous dise un mot de ces obsèques, parce que les gens du coin ne sont pas prêts de les oublier. Ou ça non. Ils ont vu débouler plus de 1000 bikers venus de toute la France. Vous imaginez le raffut, 1000 gros cubes pétaradants et rutilants, avec leurs blousons de cuir et leurs t-shirts à tête de mort. Au moment de l'inhumation, le cercueil est porté par 4 bikers. Et ça signifie que la pie, c'était un chef. Et oui, la pie, c'était un chef. Il était le chef autoproclamé du MC Drôme, le motoclub de la Drôme. C'est lui qui l'avait créé. Sur toutes les photos du club, il est au centre. Et faut voir la dégaine. Pantalon treillis, blouson de cuir, cheveux longs, bandana sur le front. Ne vous trompez pas, un motoclub, un MC, c'est pas un club de loisirs. C'est très éloigné du cercle de pétanque. C'est plus près de la confrérie ou de la fraternité. Tous pour un pour tous, à la vie, à la mort. Et le bar où il a passé sa dernière soirée, le RN7, c'est à lui. C'était la base arrière du MC Drôme et au passage, un magasin de pièces détachées pour Harley. Un comptoir en formica, quelques tables, une odeur de bière, de cuir et surtout de testostérone. Avec tout de même une porte blindée parce que les bikers, c'est pas des enfants de cœur. Ou ça non. Au moment de ce meurtre, les gendarmes les connaissent bien, les loulous du MC Drôme. La plupart ont un casier judiciaire long comme le bras. Leur truc, c'est tout ce qui tombe du camion, comme on dit. Des télés ou des pièces détachées qui un jour s'envolent de la remorque d'un 38 tonnes, on ne sait pas comment, et qu'ils se chargent d'écouler discrètement. Ce qui met assez vite les gendarmes sur la piste d'un règlement de compte, d'autant qu'ils apprennent que la pie, ces derniers temps, cherchait un protecteur. Et qu'il avait vu les Hells Angels, un club mythique venu tout droit de l'Amérique des années 50, mais dont on dit qu'il serait devenu une vraie mafia. Un temps, en 97, 6 ans avant le meurtre, il avait tenté d'intégrer les Hells Angels à Paris. Il avait été très mal reçu. Ça s'était fini à coups de poing. Il était reparti la queue basse. « Dégage de là, ton club, on n'en veut pas !» Alors, piqué dans sa fierté, il était allé voir leur ennemi absolu, les Outlaws, les hors-la-loi. Et il était allé les voir en Angleterre, à Manchester, avec 5 gars du MC Drôme. Et là, ça s'était bien passé. Ils étaient revenus au creux de la tine avec les couleurs des Outlaws, une tête de mort sur 2 pistons. Lapi a été assassiné 11 jours plus tard. Ça fait une piste, ça. Des Hells Angels qui désinguent un gars des Outlaws. En vérité, personne n'y croit. Ni le procureur, ni les bikers du MC Drôme. Faut pas exagérer. Au fond de sa Drôme, Lapi ne faisait pas tant d'ombre que ça aux Hells Angels. En revanche, il y a une autre piste qui s'ouvre quand les gendarmes reçoivent un coup de fil anonyme. Le corbeau leur dit ceci. Intéressez-vous à Michel Di Barco. Il a commandité le meurtre de Lapi parce que Lapi était venu le menacer avec une arme. Et celui qui a tiré sur Lapi, c'est un associé de Di Barco. Il a les cheveux gris et une queue de cheval. Il n'est pas dur à trouver ce Di Barco. Lui aussi, c'est un motard. On l'appelle le gros Michel. Il a un bar dans un village pas loin. Il a trempé dans le trafic de drogue et il a fait du business avec Lapi. Les gendarmes débarquent chez lui et ils découvrent qu'en 99. Il y a eu une embrouille entre lui et Lapi. Il n'arrive pas vraiment à savoir laquelle, mais c'était une grosse embrouille, leur dit Di Barco. Et d'amis, ils sont devenus rivaux. Et Di Barco dit alors quelque chose de bigrement intéressant. Ils se sont croisés quelques jours avant l'assassinat. Ça s'est passé dans le bar de Lapi, au Creux de Latine. L'autre est allé le provoquer. Il s'est installé pour déjeuner avec un pote. Quand il l'a su, Lapi a débarqué. De le voir là, ça l'a rendu fou. Moi, je lui ai dit « Oh, oh, Lapi, calme-toi !» Et puis voilà, ça s'est calmé. On a parlé, on a bu quelques bières, et il est reparti. À cet instant précis, le gros Michel devient le suspect numéro un des gendarmes. C'est lui qui a tué Lapi. Le problème, c'est que le soir du meurtre, il était au restaurant avec son beau-père. Il y a des témoins, des dizaines de témoins. Donc c'est pas lui. Mais si vous vous souvenez bien, la lettre anonyme parlait d'un deuxième homme, le tireur, qui aurait des cheveux gris et une queue de cheval. Celui-là non plus, il n'est pas dur à identifier. Son surnom, c'est la couette. Et comme les autres, c'est un biker. Et lui, en plus, il collectionne les armes à feu. Nouvel espoir sous le képi. Il est coffré, interrogé, sa maison perquisitionnée, mais la couette ne lâche rien. On ne retrouve pas le 9 mm qui a tué Lapi, il est donc relâché, un peu à regret. Le temps passe et il n'y a pas de nouveau suspect. 5 ans après le crime, le juge rend une ordonnance de non-lieu, dossier classé. Il n'aura pas le temps de prendre la poussière. Cinq ans après le meurtre de Lapi, le 29 juillet 2008 à midi et demi, deux hommes sur une moto traversent le village d'Arras-sur-Rhône, dans l'Ardèche. Comme en 2003, quand Lapi a été tué, il fait très chaud. La moto s'arrête devant le bar-restaurant à la tour d'Arras. Le passager arrière descend, s'avance droit vers le bar et tire 13 coups de feu sur un client qui boit son café. Le tueur reprend sa place à l'arrière de la moto et elle démarre en trombe et disparaît dans la campagne. L'homme qui vient de mourir, c'est Di Barco, c'est le gros Michel. Mais vous n'allez pas le croire. Tous les gendarmes qui ont mené l'enquête de 2003 ont été mutés depuis. Tous, il n'y en a pas un qui fait le rapprochement. Pas un. Ils ne font donc pas le lien avec l'affaire Lapi. Et une fois de plus dans cette affaire, c'est un coup de fil anonyme qui les met sur une piste. Un homme qui leur suggère de s'intéresser à un accident de voiture 3 mois plus tôt, près d'Arras-sur-Rhône. Ça n'était pas un accident. C'était un meurtre. Voilà ce que dit la voix anonyme. Et vous savez qui est mort dans cet accident qui n'en était pas un ? La couette, le meilleur ami du gros Michel. Alors on déterre le cercueil de la couette et on trouve des plombs de carabine dans sa tête. Ça n'était pas un accident, c'était un meurtre. Les deux suspects de l'affaire Lapi ont été exécutés 5 ans après. Et heureusement, à un moment donné, les gendarmes font le lien. Et ils pensent que les tueurs de 2008 ont voulu venger le meurtre de 2003 et que sans doute le gros Michel et la couette étaient les assassins de Lapi. Il ne reste plus, en toute logique, qu'à trouver qui, parmi les amis de feu Lapi, a orchestré la vengeance. Et encore une fois, c'est un coup de fil anonyme qui les met sur une piste. Gendarmerie, j'écoute.
Oui, bonjour. J'ai quelque chose à vous dire sur le meurtre de la couette.
Comment vous appelez-vous ?
Je sais qui l'a descendu.
Je vous écoute.
Il s'appelle Zanchi, Honoré Zanchi, Z-A-N-C-H-I.
Les gendarmes passent le nom au fichier. Ça fait tilt tout de suite. « Ce Zanki a un joli pédigré, nom de Dieu, 17 condamnations pour vol et violence avec armes, plus un meurtre. En 92, il a tué un homme au 9 mm. Une histoire de vengeance. Quand Lapi a été tué, Zanki était en prison. Il en est sorti pile poil un mois avant le meurtre de la couette dans sa Mercedes. Et les gendarmes apprennent très vite que quelques jours avant le meurtre du gros Michel à la terrasse de la tour d'Arras, il s'est battu avec lui. C'est lui, c'est sûr. Mais c'est trop tôt pour le coffret. Il faut des preuves avec ce genre de mec. Faut pas compter sur des aveux. Alors on le filoche, on le met sur écoute et on attend qu'il fasse une faute. Ça dure un an. Mais il n'en fait pas de faute. C'est dommage. De toute façon, ça bouge. Et les gendarmes ont vite autre chose à faire. En mars 2009, une femme se présente à la gendarmerie de Saint-Vallier, toujours au bord de la Nationale 7. Elle signale la disparition de son frère Marc Nepotsit, 35 ans. Elle a retrouvé sa Peugeot 405 rouge sur un parking. Les gendarmes ouvrent la voiture et trouvent le téléphone de Nepotsit, son portefeuille et sa carte de crédit. Ils découvrent que ce Nepotsit qui a disparu n'est autre que l'homme de main de feu le gros Michel. Sa maîtresse raconte qu'il avait reçu des menaces de mort et que la veille du jour où il a disparu, il cherchait une arme. Immédiatement, bien sûr, les gendarmes pensent à Zanki. Oui, ce Zanki, il ne faut pas le lâcher. Maintenant, il y a 14 gendarmes sur le coup. 14 gendarmes sur le dos de Zanki. Ils ont même planqué un micro dans sa voiture et posé discrètement une balise. Maintenant, il le piste et il l'écoute, même quand il est dans sa voiture, et il est tout le temps dans sa voiture. Lui doit avoir des doutes. Il se comporte comme un animal traqué. Il est toujours en mouvement. Un gendarme dit, on dirait un guerrier solitaire. Dans la journée, il avale des kilomètres en voiture, des déplacements sans queue ni tête. Et la nuit, il dort dans la voiture, au fond des bois. Et quand il va voir sa maîtresse, il se gare loin de chez elle. Il rase les murs, il marche à l'ombre. Et pendant ce temps, les gendarmes retracent ses déplacements le soir où Nepotsit a disparu. Et pas de doute, il a croisé sa route. Et après, il a suivi une route de montagne et il s'est arrêté près de la roche Péréandre. Et si c'était là qu'il avait caché le corps? Il fouille, ça ne donne rien. Seulement voilà, Zanki, il a eu vent de ses recherches et il va commettre un faux pas fatal. Téléphone dans sa voiture, il appelle un certain Michel et il lui dit « Il faudrait déplacer le corps du Marc. » Eh ben voilà, ça y est, il est coincé. Il est localisé chez une amie à Annonay. Le lendemain matin à l'aube, 150 gendarmes encerclent la cité et c'est le GIGN qui enfonce la porte de l'appartement et le trouve dans son plumard. Et on retourne à la roche Péréandre, et cette fois-ci avec des chiens détecteurs de cadavres. Et eux trouvent le corps de Nepotsit sous 60 cm de terre, en slip. Une balle lui a traversé la tête. Au début de sa garde à vue, à Grenoble, Zanki ne lâche rien. Rien. C'est un mur. Il regarde ailleurs, il se bouche les oreilles. Et tout ce qu'il dit, c'est « Moi, je suis un voyou. Vous, vous êtes des gendarmes. On n'a rien à se dire. » Sauf que dans la soirée, avec le plus âgé des gendarmes, il s'ouvre un peu. Il se targue d'être un voyou à l'ancienne, avec une déontologie. Oui, monsieur, un code d'honneur. C'est pour ça qu'il ne balancera pas. Parce que je le connais, celui qui les a tués. Mais je vous dirai rien. Mais quand on lui parle du gros Michel, il a de la haine dans les yeux. De la haine. Alors que quand on lui parle de Lapi, ah, c'était un ami, ça. C'était un frère. Il était là quand j'étais dans la merde. Et quand lui a eu besoin d'aide, moi j'étais en prison. Vous comprenez ? Sur sa tombe, j'ai vu une lumière. Ça brillait par intermittence. C'était comme un battement de cœur. Une lumière qui disait « Tu as été vengé ». Zanki est mis en examen. Il est renvoyé devant la cour d'assises de la Drôme, à Valence, en 2012, pour les assassinats du gros Michel, de la Couette et de Népotsit. Dans le box, Zanki a une certaine prestance. C'est un grand gaillard, 1m85, sportif et ombrageux, cheveux noirs, regard noir. Il se définit comme un vrai voyou. Et pour lui, un vrai voyou, ça ne parle pas. Quand on lui demande de décliner son identité, il se contente de hocher la tête. « Vous allez refuser de répondre pendant tout le procès ?» lui demande le président. Zanki fait oui de la tête. On parle d'emblée de son amitié avec Lapi. Zanki l'a connu, ils avaient 17 ans, et il était maçon le jour et cambrioleur la nuit. Pas de gros coups, mais quand même, il a pris 6 mois pour avoir tenté de dévaliser la caisse d'un cinéma. C'est à ce moment-là que Lapi l'a pris sous son aile. Il devient pour lui une sorte de grand frère. Zanki n'en arrête pas pour autant sa carrière de cambrioleur. Il se spécialise dans les magasins de sport. Il en dévalise une trentaine et il file en prison, sans broncher. Et quand il sort, il passe un cran au-dessus, il venge un de ses amis, déjà à coups de 9 mm, et il retourne en prison, 10 ans ferme. À 47 ans, au moment où il est jugé à Valence, il a passé la moitié de sa vie en tôle et il affiche 17 condamnations au compteur. C'est un dur, mais fidèle en amitié. Et la cour d'assises, il connaît déjà. Ça ne l'impressionne pas. Il a décidé de ne pas parler, il ne parlera pas. Parole de Zanki. Il reste les bras croisés, il regarde droit devant lui, il cherche juste à intimider les témoins du regard. Et ça marche. La baronne ouvre le bal. C'est une tenancière de bistrot qui avait dit aux gendarmes que Zanki lui avait avoué les meurtres. « Vous avez dit que Zanki vous a avoué les meurtres dans votre bar. »« Ah, ça n'est pas ce que j'ai dit aux gendarmes. » Elle a l'air de lui rendre service. Mais en vérité, elle l'enfonce. Trop, c'est trop. Un témoin surprise est appelé à la barre. Une camionneuse, une routière, amie de la veuve Lapi. Elle se présente en débardeur pour qu'on voit bien les tatouages sur ses bras. Et celle-là, elle ne se laisse pas intimider. Elle a des choses à dire et elle va les dire. Toute la vérité, rien que la vérité. Elle le jure. D'une voix rocailleuse, elle confirme. La baronne m'a raconté que Zanki est venu dans un bar et qu'il s'est vanté d'avoir vengé Lapi. Aïe. Coup dur pour la défense. L'avocat de Zanki, Maître Bray, abat ses dernières cartes. Trois témoins ont attesté que le tueur du gros Michel était svelte, frêle et ne mesurait pas plus d'1m70. Regardez dans le box ! On a une armoire à glace. Et il fait remarquer que lors du fameux coup de fil donné dans la voiture, dont on connaît le contenu puisque les gendarmes avaient planqué un micro, Zanki n'a pas dit « j'ai tué le gros Michel » ou « j'ai tué la couette » ou « j'ai tué Népotsit ». Non, il a dit « quand le gros Michel s'est fait tuer ». Alors que son avocat dit « c'est plutôt le genre à se vanter de ses actes de bravoure. Et il enfonce le clou. On veut coller les trois meurtres sur le dos de Zanki simplement parce qu'il parlait sans cesse de la pie. Mais cette histoire de vengeance, ça ne tient pas. Ça n'est qu'un alibi pour l'arrêter et le condamner. Plaidoirie assez vaine. Zanki est reconnu coupable par la cour d'assises et condamné à la réclusion criminelle à perpétuité. Mais, droit dans ses bottes, il fait appel. Il n'a rien à perdre dans un second procès et il a tout à gagner. Au premier procès, Zanki était resté muet comme une carpe, parce qu'il est têtu comme une mule. Et il avait pris perpète. Pour ce procès de la dernière chance, il a retrouvé sa langue. Il parle, mais c'est uniquement pour dire qu'il est innocent. On lui fait écouter les enregistrements réalisés dans sa voiture. Sa compagne a reconnu sa voix, mais lui dit « Ah, ça n'est pas moi, ça n'est pas moi » sur ces enregistrements. Et pour convaincre qu'il dit vrai, il a un argument imparable. « J'ai toujours assumé mes actes. Une fois on a accusé des copains à moi à tort, je me suis livré. » Et ça c'est vrai. Sauf que là, personne n'est accusé à sa place. Pourquoi avouer ? L'avocat général demande à nouveau la perpétuité pour Zanki. Il la demande sur la seule base possible, celle de l'intime conviction. Deux assassinats et un meurtre commis, c'est mon intime conviction par un homme qui se trouve en récidive légale. Cela fait des années que je fais ce métier, et des meurtriers en récidive, je n'en ai pas connu beaucoup. Et puis ça n'est pas une récidive à moitié. Là, c'est trois homicides. Maître Cormier, à la Défense, plaide le voyou d'honneur. S'il les avait tués, je pense qu'il les revendiquerait parce que c'est son mode de pensée. Si vous avez un doute, vous devez l'acquitter. La cour et les jurés n'ont pas de doute. Il est à nouveau jugé coupable, mais la peine est légèrement inférieure. Il prend 30 ans, quand la première fois il avait pris perpète. C'est presque la même peine, à un détail près. Condamné à 30 ans, il va bénéficier de remises de peine automatiques. 30 ans vont devenir 28, puis 27, puis 25, et il pourra demander une libération conditionnelle à la moitié de cette peine qui diminue tous les ans. Alors qu'une perpète, on ne peut bénéficier d'une conditionnelle qu'à partir de 15 ans de détention. C'est pas rien. Et il doit se dire qu'il a bien fait de faire appel. En tout cas, depuis 2003, chaque année, le 6 août, les bikers de toute la région se rendent à Annonay pour célébrer la mémoire de la pie. En langage de motard, ça s'appelle un « memory ».
Des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur europe1.fr.